Bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Merci Jean-Christophe d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux, très honorés. On est très heureux aussi de vous revoir tous enfin démasqués. C'est vraiment un plaisir. Jean-Christophe, on se connaît depuis un petit moment, donc on va pas le cacher. Mais il a commencé l'architecture bien avant moi, évidemment. Ça fait pas loin de 30 ans qu'il exerce. Et il a une pratique singulière et en même temps plurielle, assez exceptionnelle. De maître d'œuvre, de commissaire d'exposition, de scénographe, d'éditeur, de dessinateur, de plasticien, d'enseignant évidemment, depuis 2015, vous le savez tous, de directeur de l'école d'architecture de Versailles. Et cette pratique diverse, multiple, elle se traduit dans une production qui, elle, est foncièrement orientée sur une question simple, qu'il va aborder ce soir, la question de la forme, la raison de la forme, la force de la forme. Ça tombe quelquefois un petit peu à l'obsession peut-être, le pli, le dièdre, le prisme, l'hexagone, le pentagone, vous le connaissez et vous êtes là pour l'entendre. Pour nous c'est un immense honneur de l'avoir, parce qu'au travers de ses formes et de sa pratique d'architecte holistique, ce qui est assez formidable, c'est qu'il essaye de faire plus grand, de faire plus beau, avec ce terme qu'il emploie fréquemment, qui est de dilater l'espace pour permettre à chacun de nous de mieux habiter le monde. Bonne soirée, merci.
Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cher Alexandre, merci pour ces mots, merci pour ta confiance, merci pour ton soutien depuis des années, ici et ailleurs. Et puis évidemment, un immense merci pour cette invitation au pavillon de l'Arsenal. On se le disait il y a quelques instants, je me souvenais assez ému des premières conférences que j'ai vues ici il y a plus de 25 ans. Philippe Gazot présentait ses bâtiments pour la Poste. Je suis heureux de participer à mon tour et de contribuer voilà, à votre engagement pour l'architecture. Alors, évidemment, je voudrais profiter de cette tribune pour partager avec vous quelques convictions, une culture de projet, tu en as parlé, Alexandre, mais peut-être aussi et surtout un sentiment particulier, peut-être qui pourrait être un peu mal approprié dans les temps qui sont les nôtres, mais au contraire, dans ces temps de crise, dans ces temps où les moments peuvent être accablants, je voudrais partager avec vous ce sentiment finalement de confiance, peut-être même de résilience, qui est un sentiment qui est lié à être à l'architecture. Et être finalement à l'architecture, c'est peut-être commencer par partager une des vocations premières de l'architecture. Vous le savez, mais rappelons-le, l'architecture, c'est elle qui rend le monde habitable. L'architecture, elle n'a jamais cessé finalement de remplir cette mission. Et d'une certaine manière, notre monde n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais habitable sans l'architecture. Mais je dirais que au-delà de la question de l'abri, au-delà de la question du refuge, ce en quoi on peut peut-être interroger l'architecture et ce en quoi on peut faire confiance à l'architecture, c'est que elle peut rendre habitable le monde quand, d'une certaine façon, elle se mobilise pour essayer de soulager la complexité du monde. Et il me semble, et c'est peut-être une culture de projet qui m'est propre, que l'architecture, elle commence à soulager cette complexité lorsqu'elle cherche à construire des liens clairs entre les choses. Quand l'architecture cherche à créer des liens clairs, des relations claires entre l'architecture et la nature, entre l'architecture et son environnement, entre l'architecture et d'autres architectures, et même entre les différentes parties qui la composent. Alors, lorsque l'architecture commence à accomplir un peu ce destin de simplifier, de soulager cette complexité, eh bien, d'une certaine manière, les usagers de l'architecture peuvent se sentir peut-être un peu mieux au monde. On peut se sentir un peu mieux aux autres. On peut se sentir un peu mieux à nous-mêmes grâce à l'architecture. L'architecture devient ainsi une sorte d'expérience existentielle, douce et permanente. Alors c'est sur cette conviction que j'ai construit une culture de projet que je vais essayer de partager un peu avec vous ce soir. Cette culture de projet, elle dit une chose un peu simple, elle dit que si on veut explorer l'architecture, si on veut profiter d'elle, il faut retourner à ses éléments fondamentaux, aux éléments fondamentaux qui la constituent. Et il me semble que, en ce sens, l'architecte peut devenir une sorte d'humaniste opérationnel, et il est d'autant plus efficace lorsque il va chercher donc ses ressources propres de l'architecture, faire confiance à ses ressources pour mettre en forme l'architecture. Alors on pourrait se demander, et j'y viens, quelles sont, comment identifier un peu ces ressources. Je vais vous en présenter 9, et puis ensuite, ensemble, on va en parcourir 3. Donc là, j'ai graphiquement classé quelques ressources propres de l'architecture. Ces ressources, lorsqu'on les convoque, lorsqu'on leur fait confiance, eh bien, elles permettent d'explorer d'une façon très particulière l'architecture, elles permettent de mettre en forme, d'inventer des dispositifs, elles permettent de problématiser et de mettre en forme. La première peut-être ressource, c'est de croire en la forme même de l'architecture. C'est le premier petit logo que vous voyez en haut qui renvoie la question de la forme à la figure, à une lisibilité assez immédiate de la présence de l'architecture. La deuxième ressource, dont vous voyez le petit dessin à côté, c'est voir en quoi l'architecture peut être questionnée à travers sa relation à son environnement. La troisième ressource, c'est évidemment de se dire que le plan n'est pas neutre. Le plan n'est pas simplement une question de programme, mais une vraie ressource aussi pour explorer. Quatrième ressource que vous voyez en deuxième ligne, c'est évidemment tout ce qui concerne la mesure, l'usage, l'ergonomie, tout ce qui concerne aussi, je dirais, une géométrisation de l'architecture. On peut la questionner évidemment à travers ça. Au milieu, vous voyez un petit schéma qui présente aussi les questions spatiales. Interroger, évidemment, tout à l'heure Alexandre parlait de la dilatation spatiale, mais effectivement, comment l'architecture en s'installant crée des expériences fortes d'espace. Autre ressource, les maquettes que vous voyez en photo, c'est la question un peu architectonique, le croisement de la question de la construction, de la structure et de son expressivité, et qui donne, je dirais, là encore, potentiellement du caractère à l'architecture. Autre ressource évidente, vous voyez en bas à gauche, c'est la relation de l'architecture avec son environnement, la relation de l'architecture depuis l'intérieur de l'architecture, cette relation intérieure-extérieure. Autre question importante, c'est d'où vient la forme, comment générer la forme, et souvent, on va en parler, eh bien, des questions très simples auxquelles il faut répondre peuvent générer des dispositifs formels, créer des règles qui font surgir de la forme, et en surgissant, cette forme va vraiment régler des problèmes. Et puis, dernière ressource ici figurée, celle de la pièce, de la notion de pièce. Alors, parmi ces ressources, ce soir, je vais en explorer 3 avec vous. La pièce, le plan et la forme. Là, vous voyez une série, alors vous devriez les voir, voilà. Vous allez voir une série de petits plans bleus qui représentent des pièces. C'était pour vous dire que être un architecte de pièces, c'est recentrer l'architecture sur la personne. C'est penser l'architecture à l'échelle humaine et au plus près de l'échelle du corps. C'est finalement s'organiser au moment où on fait du projet, s'ouvrir un espace pour faire en sorte qu'à un moment donné, on questionne la mise en forme de l'architecture à l'échelle du corps. Être un architecte de plan, c'est chercher une autre échelle de réflexion et c'est penser à l'échelle des relations humaines entre elles. C'est recentrer l'architecture et la réflexion, la mise en forme de l'architecture sur l'altérité. Et être un architecte de forme, c'est penser à l'échelle des relations humaines avec l'environnement. C'est recentrer l'architecture sur son territoire propre. C'est penser que l'architecture doit être située, étroitement liée à son environnement. Alors, trois thèmes. La pièce d'abord. Et je vais évidemment faire un petit détour très court, historique. La pièce, c'est évidemment le lieu de la relation la plus étroite, la plus immédiate entre l'architecture et l'homme. La présence de la pièce dans l'histoire de l'architecture, elle est permanente, elle appartient à l'histoire de l'humanité. Et la pièce, elle se manifeste évidemment partout et en tout temps. Ici, quatre exemples. En Inde, avec le sanctuaire de la vallée d'Ajanta. En Allemagne, au XIXe siècle, avec ce magnifique projet de Schinkel, c'est la maison Fellner. Et aux États-Unis, avec Louis Kahn, avec son couvent pour les sœurs dominicaines. Et puis, je voudrais partager avec vous un petit moment d'émotion avec une architecture qui n'est pas très connue, qui est la tombe d'un noble égyptien qui s'appelle Rekhmiré, qui est une expérience architecturale bouleversante et qui nous donne une leçon sur une peut-être des premières grandes pièces et qui nous invite à parcourir cette leçon dans le temps. La tombe de Rekhmiré, elle est constituée par deux salles perpendiculaires l'une à l'autre. Vous rentrez, vous êtes dans un petit village en ruine, vous avez une porte en bois qui s'est déjà écroulée et vous passez par une sorte de trou quasiment à quatre pattes et cette porte qui donne sur la vallée du Nil d'un seul coup donc rentre profondément dans la terre. Et vous avez ces deux salles perpendiculaires. Le plan est déjà très très étonnant. C'est un espace époustouflant et calme à la fois. Et lorsque vous regardez la coupe, vous comprenez un peu le prodige, l'invention absolument incroyable de ce lieu. C'est que ces deux salles, évidemment, n'ont pas tout à fait le même profil. La première salle a une sous-face plate, vous la voyez, hein, c'est le petit sursaut qui est ici. Et puis la deuxième salle a son plafond creusé, en biais, en pente forte. Et là, évidemment, on revient à cette dilatation de l'espace qu'on évoquait tout à l'heure. Cette déformation, elle est fabuleuse parce qu'elle fait passer de la porte physique sur le Nil à la porte physique, métaphysique, sur l'au-delà. Et surtout, elle nous dit, à nous qui aimons l'architecture et qui aimons l'espace, elle nous dit finalement que la pièce, elle est cette rencontre heureuse entre le plan et la coupe. Et en voilà une invention absolument bouleversante à explorer longtemps. Alors, j'ai passé ces 17 dernières années à essayer de me libérer des a priori formels sur la pièce, les a priori aussi fonctionnels. Puis rétroactivement, donc, je me suis rendu compte à quel point cela faisait surgir un potentiel exploratoire de ces lieux. Là, j'ai placé quelques pièces comme ça qui ont surgi au gré de projets, mais on se rend bien compte que si on aborde l'architecture et la conception en architecture à travers la notion de pièce, eh bien, ça ouvre évidemment beaucoup, beaucoup de potentiel et fait surgir des formes assez étonnantes. Et surtout, c'est bien la leçon de la tombe de Rekhmiré, la pièce, c'est cette rencontre entre la coupe et le plan, et donc toutes les pièces que vous venez de voir en plan avant, elles sont toujours profilées avec des coupes très spécifiques qui renvoient toujours à des problèmes très spécifiques et qui finissent par leur donner du caractère. La pièce n'est plus une petite partie fonctionnelle d'un tout, mais elle devient une petite expérience en soi, une petite expérience existentielle. Alors, l'histoire et la pratique en architecture, évidemment, nous rappellent sans cesse que cette notion de pièce, eh bien, elle s'applique à des lieux très, très inattendus. Une terrasse, une rue, une place, un jardin, une clairière peuvent être considérés comme des pièces et ouvrir les potentialités dont on parle maintenant. En tant que concepteur, évidemment, dire ça, ce n'est pas neutre du tout. Penser le projet à travers la notion de pièce, c'est évidemment s'inviter à se donner c'est donner de la considération à des lieux, et souvent donner des lieux, de la considération à des lieux qu'on oublie ou qu'on pourrait assez facilement négliger. Alors, je vais vous montrer une série de pièces de nature finalement très très différente. Quand concepteur, vous ouvrez le potentiel de la pièce, et bien d'un seul coup, vous découvrez au fil du temps la façon dont ça peut mettre en forme les projets. Première nature de pièce, la pièce ouverte, la pièce calibrée qui met en relation ses usagers avec l'architecture et avec la nature. Donc là, vous voyez par exemple un petit abri sur une plage en Corse, sur la plage du Liamone, et vous voyez comment, d'une certaine manière, la même fenêtre, placée verticalement vers le bois, horizontalement vers la mer, finit par organiser cette pièce. Cet espace, il naît de cette préoccupation de penser par la pièce. Et il crée une expérience immédiate pour tous ces usagers qui créent une relation amplifiée avec la nature et une relation amplifiée avec l'architecture. Deuxième nature de pièce, la pièce charpente. Évidemment, si vous posez la question de comment on peut explorer par la pièce la question de la structure, eh bien d'un seul coup, vous pensez la structure à l'échelle du corps. Vous pensez la structure en la modulant, en la questionnant par rapport aux mesures du corps. Là, vous voyez par exemple un projet d'une maison de repli, de retraite en Corse, qui est à la fois un abri, à la fois une très grande bibliothèque, à la fois une série de petites cellules pour se replier et se reposer. Penser la pièce, c'est aussi penser la pièce monumentale à l'échelle du corps. Je vais vous montrer là, par exemple, un projet qu'on a fait pour le concours de la réhabilitation de l'église de Sainte-Edwige, la cathédrale de Sainte-Edwige de Berlin. C'est un projet pour lequel on a cherché à répondre à une question très simple. Cette cathédrale a été très mal menée pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis pas beaucoup mieux menée ensuite. Elle a subi certaines transformations, elle a subi, je dirais, une sorte d'addition de phénomènes décoratifs. Et donc, on s'est posé la question, parce qu'on pense à l'échelle de la pièce, comment retrouver une grande unité ? Comment trouver une lumière ? Et d'une certaine manière, comment faire que cet espace devienne un peu mystique ? Et on a proposé ce que vous voyez sur ce plan, qui est à la fois une coupe, un plan et une axonométrie. C'est un grand mur de briques très homogène à l'échelle de la pièce et qui passe d'un plan au sol baroque calé sur toutes les ouvertures existantes de l'église à un plan euclidien calé sur le percement zénital de l'ouverture de la toiture. Et en passant donc de cette géométrie baroque à cette géométrie euclidienne, bien d'un seul coup, ce mur de briques s'est construit et est devenu enveloppant, a créé une unité très forte et a trouvé cet équilibre entre le corps et le monumental. Quand on pense la pièce, il n'y a plus aucune pièce qui nous échappe. Il n'y a plus de pièces résiduelles. Il n'y a plus de pièces qui ne valent pas le coup d'être expérimentées, d'être questionnées. La pièce intime, qui est souvent un peu abandonnée, ou la résultante de la complexité des situations dans lesquelles on se trouve, ici devient, au cours du temps, vous voyez une série de petits plans bleus qui sont différentes pièces intimes, pièces d'eau, dans différents projets que nous avons faits ces dernières années. Cette pièce, eh bien évidemment, elle est à l'échelle du corps nu qui est en relation avec la matière, du corps nu qui est en relation avec la lumière, et qui est lié à un regard finalement qui cherche les plus belles expériences avec le corps. Évidemment, celle de l'ablution, celle de l'immersion, celle du bain, celle de la douche. Tout ça, ce sont des prétextes par la pièce à essayer de la mettre en forme et de trouver des relations plus justes, plus ouvertes, nouvelles entre ces formes et le corps. Autre nature de pièce, La pièce à toute fin utile. Vous savez que c'était une expression d'Auguste Perret. Et cette idée qu'on pourrait penser l'architecture à partir d'un certain nombre de pièces, qui seraient des pièces qui seraient de multiples fonctions, qui ne seraient pas assujetties programmatiquement, qui refuseraient un déterminisme fonctionnel a priori. Ici, par exemple, pour Otagora, que nous avons exposé au pavillon il y a quelques années, c'est une recherche par le projet, nous avons développé une petite pièce de 16 mètres carrés. À partir de cette pièce de 16 mètres carrés, nous avons tout envisagé. Nous avons en particulier envisagé d'en faire des jardins, des pièces de bureau, des pièces domestiques. Et puis, nous avons cherché à la façon de les connecter les unes aux autres. Et donc, ça libère les plans, libère les possibles. Ces pièces peuvent s'additionner, comme vous le voyez ici, et puis finalement former ces grandes matrices de plans que vous voyez. Ça, c'était la base de la tour Otagora, donc un projet que nous avions développé avec Bollinger Gromann, que je salue. Et nous avons trouvé, au final, mise en forme et cette particularité de mise en forme, d'avoir cette capacité d'être extrêmement efficace d'un point de vue structurel. L'assemblage de toutes ces pièces nous permettait, par exemple, d'envisager une structure de 700 mètres de haut avec des murs de 30 cm à leur base. Là, vous aviez donc le rez-de-chaussée de ce gratte-ciel. C'est la pièce qui nous a amené à cette réflexion et à ce résultat. Encore une pièce différente, nature de pièce différente, c'est la pièce partitionnée. On sent bien qu'au cours de nos explorations architecturales, des projets, que ce soit dans le logement, que ce soit dans les échelles plus petites, par exemple de maisons, eh bien, une nature de pièce très typée est apparue. Vous voyez deux petits plans bleus en bas de ce dessin. Et ces plans bleus montrent comment une déformation, une petite géométrie, une inflexion partitionne l'espace, invite à regarder un peu autrement l'espace, invite à l'utiliser de façon différente. Par exemple, nous allons construire à Hermont ce studio. Alors on a réussi, à force d'économie, à force de stratégie, à avoir quatre fenêtres. Et vous voyez, c'est la terrasse extérieure qui vient plier l'espace intérieur et qui définit, voilà, un coin jour, un coin nuit. Bon, je le dis comme ça, mais on pourrait le dire autrement. Et en tout cas, qui invite, un peu comme disait Perret, à toute fin utile, à utiliser ces lieux avec ces inflexions. Encore une autre pièce qui m'intéresse beaucoup et que je voulais partager avec vous. Tout promoteur, tout maître d'ouvrage, tout architecte est confronté à l'écrasement et des fois le découragement de la norme. Mais la norme, ça peut être aussi un lieu d'émancipation. La norme, ça peut être aussi le moment, une aspérité sur laquelle on s'appuie pour essayer de s'en échapper, de s'en émanciper. Sur ces quatre petits plans bleus, eh bien, vous voyez comment la chambre, la fameuse chambre PMR, avec ses zones de manœuvre d'1,50 m, peut être le support d'une réflexion pour des formes de pièces qui peuvent devenir peut-être un peu plus intéressantes, qui promettent aussi des usages. Sur la petite perce que vous voyez, c'est mis en perspective le premier plan bleu que vous avez en haut. Eh bien, d'un seul coup, le lieu du cercle devient un petit lieu à encore être conquis, à être investi, comme on l'entend, un bureau, une chaise, des plantes. D'une certaine manière, en ouvrant ces possibles, eh bien, on ouvre une boîte de Pandore, une boîte de Pandore heureuse. Et puis, avec progressivement, vous voyez, les pièces se déforment. Vous voyez la pièce pentagonale qui apparaît ici en bas. Cette pièce pentagonale va beaucoup nous intéresser parce que, évidemment, géométriquement, elle va nous permettre des assemblages assez savants et nous permettre vraiment d'étudier ensuite les plans et leurs assemblages. Dernière pièce que je partage avec vous ce soir, c'est des pièces qui tiennent moins par leur qualité en elles-mêmes, à l'intérieur même de la pièce, mais par leur capacité à s'assembler et pour leur capacité à trouver des espaces forts dans le fait qu'elles se rapprochent les unes des autres, ces pièces. Donc là, c'est trois pièces d'une maison qu'on fait en Corse en ce moment, et qui sont des pièces qui suivent la pente de la montagne et qui organisent cette perspective que vous voyez, une sorte de porosité à travers la maison qui passe du jardin à la montagne et qui crée cette tension architecturale au sein du projet. Évidemment, quand on commence à parler de pièces qui s'assemblent, on bascule gentiment vers la notion de plan. Et donc, cette ressource, le plan, est pour nous un sujet absolument permanent, obsessionnel, disait tout à l'heure Alexandre, ben je le confirme. Louis Kahn disait, le plan est une société de pièces. Cette formule, elle est absolument merveilleuse. Louis Kahn nous invite toujours plus à définir à notre tour, d'une façon consciente, d'une façon déterminée, quelle société nous souhaitons construire, quelle société à travers le plan nous souhaitons construire. À travers le plan, quelle altérité nous souhaitons offrir aux usagers de l'architecture. Alors, si vous vous posez la question de cette façon-là, évidemment, la société de plan, elle invite à penser le plan en associant les pièces. Ça sous-entend que chaque plan traduit une stratégie volontaire, une stratégie qui va rapprocher de façon hautement qualitative les pièces. Le plan va traduire graphiquement, géométriquement, une série de pièces dont l'assemblage sera à chaque fois unique, spécifique et refondé. Les plans que je vais vous présenter portent tous une idée récurrente. Cette idée, elle m'a été soufflée par Patrick Berger, que je salue, qui, en visitant un de nos projets, disait qu'on pouvait regarder tous ces plans et y voir une idée de la suite. Et je suis très touché par cette idée. Et effectivement, j'ai envie de dire, je ne suis pas un architecte de plan, mais je suis un architecte de suite. Cette notion de suite, je vous propose de l'explorer. Pour moi, il ne s'agit pas d'une suite classique de pièces liées en enfilade. Il ne s'agit pas non plus d'une suite de pièces qui serait issue du plan libre. Il ne s'agit pas non plus d'une suite kahnienne de pièces hiérarchisées. Mais il s'agit plutôt d'une suite de pièces réglées dans un plan qui les rend à la fois autonomes et flexibles. Les pièces, en ce sens, ne sont plus assujetties les unes aux autres, mais elles sont programmatiquement neutres et libres. Alors, je ne voudrais pas être trop théorique, je vais montrer très concrètement, à travers trois projets, ce que ça veut dire, ce que ça implique, et finalement, la façon dont ça construit les plans. Trois projets, une maison en Corse, un concours pour la RATP de logement et un concours de logement pour des personnes âgées en Italie. Voici les plans, les pièces qui vont constituer ces suites avant qu'ils ne deviennent les plans que vous voyez aujourd'hui. Premier projet, il est en Corse, c'est une maison avec des moyens, je dirais, assez rudimentaires, des moyens locaux avec des entreprises locales. Et l'idée, c'est peut-être de partager aussi avec vous le fait que l'architecture n'est pas une question de moyens, mais c'est une question de problématique. Et là, la problématique, elle est finalement assez simple. Le site est tellement merveilleux qu'on se dit que habiter, concevoir une maison ici, c'est forcément faire en sorte que ces pièces, ce plan, cette suite, organisent une relation intense avec cet environnement. Pour faire ça, eh bien c'est très simple, nous avons dit que chaque pièce de la maison aura une ouverture en proue vers une des montagnes du site. Et donc, nous avons additionné les pièces. Première pièce, pointée vers le rotondo. Deuxième pièce, pointée vers la sposata. Troisième pièce, pointée vers l'incinosa. Ensuite, le vestibule, puis une nouvelle pièce qui cadre la vallée du Liamone, l'entrée, une grande chambre ou une grande pièce, on le verra, vers la Koum, et puis ces pièces intimes dont je parlais tout à l'heure, ces pièces d'eau, et enfin un patio dirigé vers cette même montagne. Le plan s'affirme dans cet assemblage, les épaisseurs construites quasi traditionnelles avec des murs épais, Ce sont des murs en cyporex, enduit extérieur, enduit intérieur, des murs donc bruts. L'ensemble est confirmé par une charpente dont les faîtières vont elles-mêmes confirmer l'espace des pièces dirigées vers les montagnes. Tout ça devient très immédiat. La forme construite est issue directement de cette suite de plans. Les murs, la charpente vont donner l'identité au projet. Cette charpente, comme je le disais, est finalement très simple. Elle est faite aussi avec les artisans locaux, avec des moyens assez simples. Vous voyez simplement, c'est par exemple ces encastrements qui lui permettent de tenir cette pression liée à ces toitures très basses qui sont liées évidemment au profil typique corse. Vous sentez cette partition dans la structure même de la maison. On retrouve ces pièces que je vous évoquais tout à l'heure, ces pièces partitionnées. Vous voyez ce plan en croix que vous avez pressenti tout à l'heure dans le plan qui devient espace. Ces pièces qui projettent leurs usagers vers la sposate. L'assemblage de ces pièces, ces suites qui à la fois partitionnent, à la fois ordonnent de l'espace et de la qualité. Vous sentez bien que ces pièces sont à toute fin utiles. Ici, ça pourrait être le séjour, ça pourrait être une grande cuisine, ça pourrait être un banquet, ça pourrait être une grande chambre pour dormir. Toujours ces relations accentuées avec la nature, cette présence de la charpente. Le corps qui trouve sa place nu dans ces pièces d'eau, qui elles-mêmes ont leur relation en diagonale, en biais, protégée, ouverte. Les pointes de la structure qui viennent définir les espaces. Pour finir avec les espaces intérieurs, cette chambre, cette pièce, qui donne à la fois sur les pièces intimes d'eau, à la fois sur le patio, à la fois sur le jardin et plus loin sur la montagne. Et au final, sans avoir voulu la composer, eh bien le projet devient très expressif. Ces petites toitures blanches l'hiver sont très surprenantes parce que finalement les formes enneigées des sommets retrouvent la forme de la toiture de la maison. Eh bien, vous ressentez cette orientation, ce lien très fort entre la forme architecturale et son environnement. Et voilà encore au passage la forme expressive qui est le résultat de l'assemblage des pièces, l'assemblage qui a formé cette suite et qui à la fois n'est pas du tout compositionnel et pourtant finalement très expressive. Deuxième sujet sur le plan, deuxième suite, autre condition, on est au cœur de Paris, c'est un projet de concours pour la RATP, on est sur les grands hangars de la RATP, et on va chercher à faire du logement dans des conditions de densité extrême. Quand je vous disais qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de forme sans une problématique initiale, notre problématique très clairement était ici d'utiliser toute l'expérience qu'on avait du logement pour essayer de faire les plus grandes pièces possibles, créer le sentiment de dilatation spatiale qu'on évoquait déjà, et tout ça enfermé dans la même matrice de surface, par exemple le T3 qui fait 63 mètres carrés. Bien pour faire ça, on a fait confiance à des formes de pièces, souvent pentagonales, qui permettent d'aller chercher plusieurs vues, plusieurs orientations, et qui permettent de connecter les espaces de façon assez surprenante. Et donc nous avons constitué une nouvelle suite de pièces, faites de vestibules, faites de grandes pièces, faites de plus petites pièces, qui s'additionnent, mais qui à chaque fois, au moment où elles s'additionnent, vont constituer une suite très précise d'optimisation d'espace. Les dernières pièces que vous venez de voir, ce sont les pièces d'eau au cœur du projet. Voilà le projet donc délimité par cet assemblage et par sa peau, et qui donc va organiser des espaces très particuliers. Voilà le vestibule qui, de par sa forme, de par cette forme pentagonale, permet sur chaque facette de connecter une pièce. Je vous le disais, penser en pièce, c'est n'abandonner aucune pièce, et c'est pour chaque pièce fonder des qualités spécifiques. Vous voyez par exemple ici une petite salle de bain pentagonale avec l'espace confortable pour l'accessibilité, une place, je dirais, justifiée pour le bain, et qui montre qu'il n'y a aucune pièce à abandonner. Puis vous voyez aussi la chambre, qui, de par cette forme, se retrouve avec de multiples ouvertures, une fenêtre évidemment immédiatement sur l'extérieur, une porte sur une autre pièce, qui elle-même a une fenêtre qui donne sur l'extérieur, et on sent que progressivement s'organise ce sentiment d'espace. Le séjour, qui, grâce à cette forme pentagonale, une nouvelle fois, permet d'avoir ce sentiment de démultiplier les orientations et ses connexions aussi avec d'autres pièces. Le T3 que vous venez de voir fait 63 mètres carrés. Il n'y a pas de couloir. Tout l'espace qu'on aurait dû mettre dans les couloirs est remis dans les pièces. Et donc c'est un T3 dont chaque pièce est plus grande que la moyenne de surface des pièces des T3 habituelles. La conséquence de ce dispositif, c'est aussi l'écriture de la façade. Et c'est une résultante dans le cadre de ce projet. C'est-à-dire que la suite a fini par écrire les façades et donner de la personnalité, donner de l'échelle et donner une échelle domestique à un projet de très grande échelle. Dernier projet de plan, avant de passer à la forme. Un projet pour des logements pour des personnes âgées en Italie. Notre objectif là est essayer d'imaginer des pièces contrastées. Chaque pièce va avoir des caractéristiques très fortes, de façon à fonder potentiellement des lieux, de façon à pouvoir les investir, de façon ouverte, et vous allez voir avec des relations, encore une fois, entre les pièces et entre l'environnement proche. Pour le faire, nous avons connecté des vestibules, des petites pièces, des plus grandes pièces. Ces plus grandes pièces, vous voyez tout de suite qu'elles ont des formes particulières qui vont permettre évidemment de créer des qualités spécifiques. Des petites pièces encore qui vont venir conforter ce plan. Puis une grande coursive qui est évidemment elle aussi considérée comme une pièce commune, une pièce partagée. L'ensemble évidemment distribué par de grands escaliers et qui finit par être accompagné par une autre pièce très importante, considérée comme telle, les terrasses. L'épaisseur vient confirmer évidemment le dispositif. Et ce plan apparaît avec un vestibule, ici une chambre protégée, très en retrait à l'intérieur de l'architecture, et une grande pièce avec cette sorte de diagonale qui passe du côté bas, ici, côté coursive, une petite ouverture avec potentiellement ce coin cuisine, avec une mesure très précise, le coin le plus pincé est le coin où évidemment on peut placer la cuisine, et le coin le plus dilaté, en partie haute, là où vous pouvez déployer le séjour, et qui s'ouvre sur l'extérieur avec une très grande baie sur les montagnes. Le résultat est cet espace qui passe donc, vous voyez, de la coursive qu'on voit à l'arrière-plan, avec un rapport contrôlé à cette partie commune de l'édifice, à l'ouverture totale sur les montagnes et avec cette pièce particulière qui est la terrasse, très cadrée, tenue et qui surcadre les montagnes. Et bien le résultat, une nouvelle fois, c'est une façade, c'est un bâtiment qui libère sa forme, qui libère sa personnalité à travers cette préoccupation du plan, mais qui finit évidemment par faire aussi surgir de la forme. Troisième sujet ce soir, Alexandre, je te l'avais promis, donc la forme. Nous l'avons vu, la forme, elle peut venir de multiples chemins. Il y a beaucoup de malentendus sur la forme. Je me suis fait souvent traiter d'architecte formaliste, et donc, avec des gestes très condescendants, forcément avec des architectures... Peu intéressante. Il existe beaucoup de formes dans nos vies. Évidemment, des formes naturelles et puis des formes culturelles. Il existe des formes plastiques, des formes cinématographiques, des formes littéraires, des formes mathématiques et bien sûr des formes construites. Évidemment, avec vous, je vais partager avec vous ce soir ce en quoi il me semble que les formes architecturales peuvent une nouvelle fois soulager la complexité du monde. Et donc, j'aimerais avec vous me risquer un peu à définir ces formes. Il y a des formes qui sont déduites et il y a des formes qui sont intuitives. Sur les deux petits dessins que vous avez là, vous avez l'exemple de ces deux formes. Quand vous êtes au bord de la plage, sur la plage du Liamon, c'est le projet que je vous montrais tout à l'heure, et que vous avez envie d'avoir cette relation avec la mer et avec la montagne, il y a une forme intuitive qui vient. La fenêtre verticale vers les arbres, la fenêtre horizontale vers la mer. Les deux se lient ensemble pour former une forme finalement assez étrange qui est ce petit gabarit que vous avez ici. Voilà l'histoire d'une forme purement intuitive. Et puis vous pouvez être dans d'autres circonstances, par exemple ici dans la plaine de Caen où on doit dessiner une maison pour un propriétaire terrien qui vit au milieu de cette plaine, qui est balayée par le vent. Cette plaine, elle est quasiment invivable tellement elle est rendue inconfortable par la force du vent. Eh bien, la forme va surgir en rendant le site habitable. C'est-à-dire que l'architecture va aller au-delà de sa propre habitabilité pour rendre habitable le site. Et pour faire ça, nous avons simplement pris le programme et sommes partis d'une sorte de grange, c'est le rectangle que vous avez là-haut. Et puis nous l'avons plié plusieurs fois de façon à faire front à tous les vents du site. Et puis, nous sommes rendus compte qu'après avoir fait cette forme un peu de boomerang qui protégeait du vent, il y avait des vents latéraux. Nous avons encore accentué cette forme, c'est les derniers plis que vous voyez, de façon à ce que, sur le flanc de cette maison, eh bien, la maison organise un havre. Voilà, vous voyez l'image que ça donne, c'est-à-dire que cette maison se déplie, et il y a des parties de maison qui ont l'air quasiment de se détacher d'elle-même. Elle est donc le résultat de ce petit dispositif. Alors, je vais vous donner maintenant trois exemples où la forme surgit de façon très significative. Et c'est la confiance dans la forme qui va vraiment faire surgir le projet. Alors, nous sommes tous des êtres de culture. Nous sommes tous des êtres de culture urbaine et nous sommes tous de culture qui portons une altérité très forte. Et au moment où le concepteur doit mettre en forme. Bien souvent, on est sous pression, on a peu de temps, on doit répondre à des injonctions contradictoires absolument en permanence. La question est comment faire pour, au moment de décider vite, réussir à témoigner, incarner cette culture, faire en sorte qu'au moment où on va concevoir, dessiner, on prenne un peu de cette altérité et qu'on l'offre. Je me pose toujours la question, pourquoi on prend un billet d'avion pour aller à New York? Pourquoi on prend un billet d'avion pour aller à Venise? Pourquoi on ne prend pas un billet de tram pour aller voir la dernière ZAC qu'on a construite à la sortie de la ville? Bien, pour répondre à ces questions, je pense qu'on peut faire confiance dans la forme. Si vous faites confiance dans la forme, si vous faites confiance d'abord dans la géométrie, cette géométrie euclidienne qu'on évoquait aussi tout à l'heure, quand vous convoquez comme ici par exemple le triangle qui va rapprocher des architectures. Eh bien, vous répondez à une grande question pour moi, qui est par exemple la question du lotissement. C'est lotissement dont tout le monde dit que c'est impossible de continuer comme ça. Mais on continue. J'ai la grande question que chacun ait sa maison, elle est bien légitime. Mais cette matrice absolument atroce qu'on applique partout, sans regarder les sites, sans jamais trouver de relation ou d'assumer de relation entre tous ces objets qu'on construit, eh bien, c'est bien la forme qui peut nous permettre de les rapprocher. Et la forme, en les rapprochant, nous permet de trouver de l'altérité, nous permet de retrouver des places. Donc c'est le projet que vous voyez ici, de petits lotissements en Corse. Vous voyez sur la partie gauche du dessin, petite maison, le petit rectangle noir, c'est une maison. On l'a plié pour des raisons que je vais évoquer, et puis ensuite on les a articulés autour d'un triangle équilatéral. C'est absolument génial le triangle équilatéral, parce que ça met en relation de façon évidente. Vous allez pouvoir oublier la géométrie, mais vous allez ressentir la place. Et de la même façon, pour un autre projet de logement à Écuilly, dans le nord de Paris, eh bien, plutôt que faire une série de bâtiments parallèles les uns aux autres, avec la plus belle idée, la plus belle distance entre les bâtiments, eh bien, nous avons fait converger ces trois bâtiments sur une pente vers une place, ce cercle qui fait converger ces bâtiments et qui nous invite à les écrire, comme vous le voyez, en tête, là, à venir se courber pour venir définir la place. Le résultat, c'est que les architectures, d'un seul coup, se dessinent beaucoup plus facilement, les plans viennent aussi plus facilement. On a confiance dans ce rapprochement et dans la qualité de ce rapprochement. Vous voyez par exemple la petite maison qui s'est pliée, nouvelle partition, hein, vous voyez par exemple sur des petites maisons là, qui forment ce lotissement, vous voyez par exemple que le séjour est fait de deux parties, le coin cuisine, le coin salon, c'est à la fois une grande pièce, c'est à la fois une pièce un peu partitionnée pour que chacun puisse aller de son côté, et à l'inverse, sur l'autre projet, vous voyez comme quoi la tête de ces bâtiments qui vont sur la place nous ont invités à dessiner des plans particuliers pour faire les séjours orientés avec donc trois faces sur ces places. Ben, le résultat pour nous, il est immédiat, c'est que vous voyez donc ces maisons qui s'installent sur la côte, donc ce lotissement finit par avoir sa spécificité, son identité. Et vous voyez donc les trois bâtiments qui convergent vers cette place plantée qui fonde donc ce lieu d'altérité. Deuxième exemple, à Boulogne, il s'agit de concevoir 24 logements, donc c'est un projet qui est en cours de construction, qui interroge le PLU et qui fait, là encore une fois, surgir la forme sur une problématique précise. Comment faire en sorte que les logements dans la densité aient un espace extérieur, alors que nous sommes dans un moment très précis de conception où on doit absolument tenir le PLU qui nous empêche de faire des terrasses extérieures, et on doit absolument tenir le gabarit qu'on a parce qu'évidemment tout est plein comme un œuf, et donc on a peu de marge de manœuvre pour trouver de l'espace pour ces logements. Bien, pour faire ça, et deuxième problématique, pardon, on est dans une partie de Boulogne où une grande place est en train d'être construite, ici, et la grande façade du projet va, d'une certaine manière, définir, tenir cette place. Et on se demande donc comment on va le faire. Bien là encore, je suis un architecte qui a confiance dans la forme. Et avoir confiance dans la forme, c'est avoir confiance dans la mesure. Et donc, nous sommes partis donc, des typologies que vous voyez là, et on a sacrifié un tout petit peu de la surface du logement pour faire en sorte que la terrasse commence à apparaître. Et puis, en jouant sur tous les paramètres du PLU où on peut dépasser de 20% au-delà du gabarit du projet, eh bien, on a aussi tiré un peu ce qui forme le balcon vers l'extérieur du logement. Et on s'est organisé pour avoir une vraie mesure, pour pouvoir en faire en sorte que, alors, à défaut de manger sur la terrasse, à moins d'être seul, au moins qu'on puisse pleinement sortir de son logement, que le corps puisse avoir cet échappé-là. Bien, le résultat, c'est que ça définit évidemment le plan, ça définit l'architecture, et d'une certaine manière, ça va apporter une spécificité d'écriture sur la place. Le projet est apparu grâce à cette confiance dans le travail sur la forme. Et la forme, évidemment, elle se manifeste à toutes les échelles. On l'a vu à l'échelle de la typologie, on l'a vu à l'échelle du bâtiment, et on le voit maintenant à l'échelle de la construction. Cette forme, elle va s'incarner à l'échelle du balcon préfabriqué, qui est à la fois balcon et qui est à la fois linteau. Donc on va chercher progressivement comment construire cette pièce, comment très finement la mettre en géométrie, et elle va finir par confirmer l'élan initial par voilà, cette forme construite que vous voyez là, cette mesure que vous voyez, hein, on sent le balcon. Vous voyez comment cette pièce préfabriquée va venir s'appuyer au milieu sur les trumeaux et s'encastrer sur les côtés pour finir d'écrire le projet et sa façade. Le résultat est donc ce projet que vous trouverez, j'espère, si tout va bien, dans quelques mois à Boulogne. Je dis ça parce qu'il y a la grue, et j'ai entendu ici même Christian Porzamparc dire, même quand il y a la grue au fond du trou, je n'y crois pas. Alors je confirme. Dernier exemple que je vais partager avec vous ce soir sur le thème de la forme, c'est celui du projet qui illustrait l'invitation que vous avez reçue. C'est l'histoire d'un projet de 7 logements. Alors, il n'y a pas de petit projet. Et alors, je sais qu'il y a de nombreux jeunes architectes ici et d'étudiants, et je le dis et je le redis, il n'y a que de l'architecture, il n'y a que de la concentration, il n'y a que de la volonté de transformer les différents états qu'on nous soumet. Ce projet, c'est un projet qui porte 3 grandes questions. Comment participer à la rue parisienne ? Comment s'intégrer dans la rue parisienne, participer à ce grand destin de Paris ? Comment donner à la fois du caractère à l'architecture et en même temps, comment s'effacer dans la rue parisienne ? Première grande question. Deuxième question, comment, dans une parcelle quasi impossible, une parcelle exiguë en forme de sifflet, penser un plan heureux ? Et puis troisième question, comment explorer la culture parisienne de la pierre ? On est dans le 6e arrondissement, ces 3 questions me paraissaient s'imposer. Vous retrouvez donc cette pièce un peu en sifflet. Et la première chose qui est apparue là, c'était d'abord de l'ordre de l'intuition. On s'est dit, c'est de la pierre, et de la mise en œuvre de la pierre, qu'on va essayer de trouver un chemin pour explorer ce projet. Première intuition. La deuxième problématique vient plus précisément d'un regard précis sur le site. Ce site a, outre sa géométrie impossible, une particularité, c'est que la façade A, qui est ici, alors, la façade A qui est là, n'est pas en alignement avec la façade B qui est ici. Vous voyez, il y a, si je projette, il y a ce petit écart qui est là. Eh bien, on pourrait dire que c'est anecdotique. Eh bien, pour l'architecte que je le suis, ça ne l'est pas. Si on pense la pièce, si on pense la rue comme une pièce, si on veut rendre à Paris, je dirais, cet hommage de la pièce, de la rue comme pièce, eh bien, on a envie de faire en sorte que le logement participe à la construction de cette rue douce continue. Et donc, on va chercher la façon dont le projet peut essayer de mettre plus de continuité là où il y a de la discontinuité. Donc on cherche. Le biais, ce n'est pas très satisfaisant. On sait bien que si on l'a fait en biais comme ça, c'est très ambigu et que ça donnera un sentiment à la fin assez désagréable. Bombé, on n'y croit pas trop. D'un seul coup, on se dit peut-être concave en prolongeant les deux parties non continues des façades de part et d'autre du projet. Et puis, ça rencontre donc une deuxième volonté, celle de la pièce. Et on sent bien que dans cette mesure du projet, sur la façade rue, on est sur 10 mètres, sur la façade côté cour, on est sur un peu moins de 6 mètres. Bien, on sent bien qu'il va y avoir là, en mesure, la possibilité d'avoir 3 pièces. Eh bien, si on recombine ces 3 sujets, cette intuition de la courbe qui lie et cette intuition des 3 pièces, on arrive à cette figure, pour nous finalement la plus simple, qui assure à la fois la continuité urbaine et l'échelle domestique du projet. À partir de là, on a déjà dénoué une grande partie, du sujet. On va enchaîner en pensant à une autre qualité très très forte d'être à Paris. C'est d'incarner ce passage entre le Paris côté cour et le Paris côté rue. Vous savez que c'est une des grandes définitions de Paris, ces deux mondes qui sont toujours en parallèle l'un de l'autre et qui ne se trouvent pas toujours. Et bien là, nous allons imaginer une colonne vide, un assemblage de pièces qui va mettre en avant un vide continu depuis l'escalier côté cour jusqu'à, en passant par le palier qui est ici, puis le vestibule, puis la chambre. Et puis on va greffer, faire une nouvelle suite de pièces qui vont être greffées autour de cette colonne de vide et en profitant de cette culture que j'évoquais tout à l'heure, cette foi dans la géométrie. Et vous voyez par exemple ici la chambre PMR avec son rond handicapé, cette forme qui nous permet d'absorber le sifflet de la parcelle. D'un seul coup, tout se met en équilibre, les pièces s'enchaînent les unes aux autres le long de ce vide et forme ce plan. Donc là, volontairement, pour rassurer évidemment notre maître d'ouvrage, et je veux le remercier, ce projet est fait avec la RIVP, vous le savez tous, c'est un très très bon maître d'ouvrage. Je voudrais le répéter ici avec une très grande écoute qui nous a fait confiance et qui nous a permis d'aller très loin dans les plans. Et donc, je disais, nous avons, pour rassurer évidemment, montré comment d'un seul coup ce plan pouvait s'interpréter, hein, avec sa cuisine, sa salle à manger, sa chambre, etc. Mais on peut effacer tous ces petits objets, hein, de l'ordre du mobilier et imaginer vraiment autrement l'usage de ce plan. Pareil pour les étages, en attique, on assemble l'escalier, le palier, le vestibule et une grande pièce, on additionne les autres pièces et on forme ce plan. La coupe, elle, elle suit le PLU, mais si vous regardez d'un peu plus près, quelque chose d'assez étrange se passe, c'est que d'un seul coup, vous voyez l'épaisseur qui apparaît ici, qui est à la fois la pierre massive porteuse et ces courbes qui vont donner une sorte d'embrasure très surprenante au bâtiment. Finalement, ce déploiement formel ressemble très fortement à une sorte d'immense bow window, d'immense oriel qui correspondrait en fait à l'entièreté de la façade. Ce projet avance en convoquant, je le disais, la culture de la pierre. Et la culture de la pierre, elle nous invite cette fois-ci à descendre à une autre échelle et à combiner cette préoccupation de la forme avec la préoccupation de l'ordre de la pierre. Que demande la pierre ? Que demande la pierre pour être pleinement utilisée et s'épanouir architecturalement dans son bâtiment ? Eh bien, on va l'écouter, la pierre. La pierre, elle demande à ce qu'on la taille d'une certaine façon, à ce qu'on l'assemble d'une certaine façon. On va le regarder très précisément. Les harpages, le calpinage, les culs de lampe qui vont nous permettre de passer d'une géométrie à une autre, tout ça grâce aux outils numériques, on va pouvoir retrouver une culture qui était un peu perdue de la stéréotomie. Et on va aller très très loin dans cette culture. On va aller chercher dans un circuit court, un circuit virtueux, les carrières de Vassens qui sont à 60 km de Paris. On va aller chercher ces pierres. On va aller avec un tailleur de pierre qui s'appelle, rappelez-moi son nom, je l'oublie à chaque fois, RS, très très grand tailleur de pierre avec un talent inouï. On va complètement optimiser la pierre. On va faire en sorte que dans cette bloc de pierre, il n'y ait quasiment aucune perte de matière. On va, grâce à l'outil virtuel, finalement découper, comme on découpe de la mousse en fil, on va découper ces pierres et on va donc utiliser toute la pierre disponible. Je vous disais, la géométrie de ce projet passe d'une géométrie domestique en partie haute à une géométrie de rue beaucoup plus lisse. Et donc pour passer de cette géométrie de pierre haute à cette géométrie de pierre basse, eh bien on passe avec un élément de transition qui s'appelle ce cul de lampe que vous voyez là, et qui est une pierre qui a trois courbures. Courbure dans ce sens-là, courbure dans ce sens-là, courbure dans ce sens-là. Cette pierre, eh bien évidemment, elle se retrouve complètement intégrée dans le mur. Elle donne cette force, évidemment, à la façade, cette continuité qui passe d'une géométrie à une autre. Elle nous permet donc de passer de la rue à la façade. Elle donne ce sentiment, évidemment, la pierre, d'homogénéité, de continuité, de pérennité. Et elle offre aussi ce qu'on pressent sur cette image, cet équilibre presque ambivalent entre le fait de disparaître dans la rue et le fait de revendiquer du caractère. À l'échelle même du bâtiment, ce bâtiment gueule sa présence par sa forme. Mais en même temps, à l'échelle de la rue, il disparaît. Vous voyez par exemple des photos vues d'un peu plus loin, où ne reste plus que cette trace de lumière et de pierre. Vous voyez quand on s'en approche, ce caractère que je disais ambivalent, qui est à la fois très concret et très abstrait, cette manifestation architecturale assez étrange lorsqu'on écoute la forme et qu'on se laisse guider par la forme. Cette forme qui soulage, elle apporte évidemment cette dimension domestique. Vous voyez là les fenêtres qui commencent à apparaître dans la forme. Elle apporte cette tessiture que vous sentez ici. Et puis finit par apparaître cette échelle de la vie, cette échelle de la fenêtre, cette échelle de la terrasse. Évidemment, tout ce combat pour la forme, pour revenir à ce que je disais initialement, c'est un combat pour faire en sorte que l'architecture soulage la complexité, nous permette de nous sentir mieux au monde. Voilà comment ces formes en partie haute du bâtiment créent là encore de légères partitions par ces courbes au sein même des pièces et qui invitent les usagers à les utiliser comme ils les entendent. Depuis le vestibule, je parlais tout à l'heure d'une sorte de bow window qui se dirige vers la ville, mais vous voyez les diagonales de vide qui percent à travers tout le bâtiment jusqu'à la rue. Enfin, vous trouvez cette échelle, comme je le dis depuis maintenant quelques instants, qui lie l'architecture, la pièce, le corps et cette douceur d'être en vie au milieu de l'architecture. Ces formes expressives qui ne sont que déduites. Et au final, cette dernière image pour vous dire que la forme architecturale, finalement, c'est l'intuition et la raison qui s'unissent. C'est la vie et c'est la culture qui se retrouvent. Et c'est une expérience existentielle, personnelle, collective, qui se partage. Je vous remercie.